les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Voici le sommaire de cette édition. C'est Noël ou presque. Pour votre premier week-end de fête, nous allons vous faire voyager et vous offrir quelques surprises sonores. Dans un instant, nous irons aux côtés d'Enki Bilal pour suivre une séance de signature avec ses fans. Nous vous emmènerons dans la forêt canadienne sous la neige. Nous irons en Afrique avec un dictionnaire original co-signé par Alain Mabankou. Et il sera question de bienveillance avec Didier Van Kovelaert. Bonjour Alain Mabankou.
Bonjour.
Bonjour Didier Van Kovelaert.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous tous les deux?
Bien.
Noël, comment ça se passe pour vous? Ça vous donne envie ou ça vous angoisse un petit peu? Didier.
Oh bah, c'est un peu tout quoi. Mais comme le climat n'est pas du tout propice, à nous de changer de climat. Quoi.
Oui, voilà. C'est ça. Ouais. Alain Mabankou.
On le vit dans la tête. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Noël doit venir, ça viendra. On prendra ce qu'on va prendre. Donc, ouais. Voilà. C'est bizarre, c'est toujours la période pendant laquelle je suis un peu plus triste.
Ouais, c'est vrai, souvent on est comme ça.
J'ai l'impression qu'on appose des soupçons de bonheur sur un ensemble de malheurs.
Bon, on vous a demandé quand même de réfléchir à une idée cadeau, soyons positifs, pour nos auditeurs, ce sera la fin de l'émission, et nos libraires aussi ont cette mission aujourd'hui, vous donner des idées cadeaux.
La librairie francophone, Emmanuel Guérade.
Et les libraires sont en multiplex avec nous en Belgique. On retrouve Déborah Damblon. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie La Licorne. Vous adorez Noël, je crois, ça me souvenir, non?
On va dire. Oui, moi j'adore Emmanuel. Les licornes, c'est comme ça.
Il va falloir faire un effort aujourd'hui.
J'adore.
Mais non, vous êtes libre de détester, il n'y a pas de problème. Bonjour Josiane Letourneau.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Montréal, dans la librairie du Square, en pleines illuminations, pleine ambiance, depuis bien longtemps à Montréal. Ça commence avec la parade de Noël fin novembre. Et ça se poursuit comme ça jusqu'à la fin de l'année. Tout va bien, Josiane, pour vous?
Ben oui, ça va bien, merci.
En France, donc, c'est Sophie Todescato depuis Orléans. Bonjour Sophie.
Bonjour Emmanuel.
Vous dirigez la librairie Les Temps Modernes. On commence avec une première idée cadeau. Quel livre allez-vous offrir à Noël?
Alors, c'est un livre pour les gens chics ou pour ceux qui aimeraient l'être. Et tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, ça s'appelle « Saper comme jadis », 60 histoires de vêtements et de gens importants. Et on y apprend donc une foule de détails sur les vêtements et les uniformes de ceux qui font l'histoire, de la toge de Jules César, à la toque en léopard de Mobutu, de l'horrible sac à main de Thatcher aux deux montres de Che Guevara. Enfin, on saura tout sur leur béret, leur bibi, sur ces vêtements qui parfois font scandale. C'est très bien illustré avec beaucoup de photos. C'est un livre qui a vraiment la classe, Emmanuel.
Saper comme jadis, c'est le titre. 60 histoires de vêtements aux éditions Robert Laffont. La sape, on en parlera tout à l'heure avec Alain Mabankou qui est très sapé, comme on dit aujourd'hui. Si, c'est vrai, vous êtes aux couleurs de Noël en plus.
Mais pas comme jadis.
Non, pas comme jadis. Bonjour la Suisse.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Dominique Bressoux. Vous êtes libraire à Boudry dans la librairie Une Petite Prose. Alors vous, quel cadeau sous le sapin conseillez-vous? Enfin, je dis le sapin, mais on peut faire de très beaux sapins de Noël avec du bois flotté par exemple. En Martinique, c'est le cas. C'est très joli. Bref, allons-y. Le cadeau.
En Suisse, on prend des sapins. Hein.
Oui. Oui, y a de quoi
alors
faire.
En fait, on peut penser que j'ai pris de l'avance pour la Saint-Valentin, mais non, pas du tout. Moi, je vais vous parler des Amoureux de Victor Husneau. C'est une bande dessinée à la magnifique couverture rouge vif et qui fera très bien aussi sous le sapin. On y suit les aventures de deux personnages, lui en bleu, elle en rouge, qui vivent leur histoire d'amour et les premiers émerveillements, les petites disputes, les grosses, en dessinant eux-mêmes au fil des pages ce qu'ils offrent à l'autre. Alors, il y a pratiquement aucun mot, à part à un moment un escargot qui fait tchoup tchoup, mais c'est d'une expressivité et d'une beauté, mais remarquable.
Les
c'est aux éditions Joie de lire.
Mais voilà, de Victor Husneau. Merci Dominique. Notre premier petit cadeau sonore vous emmène au Salon du Livre de Montréal, avec Enki Bilal et ses fans. Imaginez le grand artiste sur une table haute, un tabouret blanc, haut lui aussi. Dany Laferrière, pas très loin de lui d'ailleurs, il est passé nous voir. Et une file interminable qui attend pour rencontrer l'idole de la bande dessinée. On y était pour vous. Écoutez.
Je le regarde, je
Enki Bilal en pleine signature.
T'es sérieux là?
Oui. Au c'est Salon du Livre de Montréal.
Je suis en pleine signature, oui.
C'était une surprise.
C'est une bonne surprise. Et alors, le but c'est de faire rentrer le prénom dans Bug. Et j'y arrive.
Attends, ça fonctionne.
Même quand c'est Jean-Philippe ou Jean.
Oui, c'est vrai qu'il y a Bug écrit en grosses lettres.
Et donc voilà, c'est pas du tout radiophonique, mais
et vous écrivez dans les lettres bug.
Voilà,
c'est original.
Je fais rentrer tous les voilà, comme je ne fais pas de dessin parce qu'il y a trop de monde, je peux pas faire un dessin par personne. Donc je fais cette espèce d'astuce comme ça
c'est
qui donne le sentiment qu'on s'occupe de son lecteur. Et c'est ce que je suis en train
Bravo.
De faire. Je me suis occupé de vous. Ça m'a fait très plaisir.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci à vous.
Merci. Au revoir. Vous êtes un peu la légende, hein, Kibilal, maintenant. C'est un mythe, non mais c'est vrai.
Les gens d'aujourd'hui.
Les gens vous adorent, c'est
oui,
fou.
Oui, non, c'est, mais c'est vrai que c'est agréable, c'est vrai que c'est très agréable. Bonsoir.
Comme rencontrer son idole, c'est...
C'est un peu ça, là.
Oui, non, c'est ça.
Ça vous met en pleurs.
Oui, oui.
Il est génial, vous savez qu'il est très sympa, Enki. Moi, je le connais
non,
bien,
je
vous inquiétez
sais.
Pas.
Vous savez, je vous ai découvert, j'avais peut-être 10 ans.
Ouais.
Je n'aurais pas dû lire vos œuvres à cet âge-là, mais...
Moi, je me prends un coup de vieux à chaque fois. Mais ça, les gens, ils s'en foutent.
Un petit peu.
Ils ne savent pas combien je pleure après, moi, tout seul, dans ma chambre.
Le pauvre était...
Non, merci, ça me touche vraiment beaucoup, merci. Vraiment.
Merci, je...
Voilà.
Je suis capable.
Écoutez, voilà.
Mais si vous êtes capable.
Vous avez
oui.
les trois, là.
Oui.
Une photo.
Une photo, oui.
Ouais, allez, je vais la prendre.
Oui.
Je la prends pour vous.
Oui, excellent. Ouais. Excellent.
Allez.
Merci.
J'aurais tout fait. Hein. Voilà.
Merci vraiment.
Vous en avez quatre.
Je vous ai vu pleurer.
Oui. La télévision qui intervient.
Alors, c'est pour vous.
Marie-Élise.
Alors, on va faire entrer Marie-Élise.
Dans Bug.
Dans Bug.
Je suis très honorée de vous rencontrer, Monsieur Villal. J'ai tous vos albums. Je sais que je suis la 98e personne à vous dire ça, là.
Ça me touche beaucoup ce que vous me dites, madame. Merci beaucoup. Merci,
merci beaucoup, monsieur Bilal.
Il y a une femme bleue là-bas, t'as vu, dans la queue.
Une femme en bleu ?
Une femme bleue, elle a les lèvres bleues, elle a...
Ah oui, non, j'ai
elle
pas
est tout en bleu. Elle est gironde, mais elle est bleue.
Et où tu vois ça ?
Dans la queue. Tu vas là-bas.
J'aimerais, si vous pouvez, dédicacer le livre pour mon père.
Il s'appelle comment ?
Luc. Luc Boulian.
D'accord, Luc. Alors, Luc, ça va être facile parce qu'il y a trois lettres.
Tu vas être content.
C'est presque bug, Luc.
Oui, c'est ça.
Luc, Buc, Bug et Luc. Merci en tout cas, vous remerciez votre père. Et
oui, parce qu'il vous suit depuis qu'à mon âge en plus.
Super.
C'est ça qui est incroyable.
J'ai vu la dame en bleu.
Oui. Bonsoir, bonjour.
Bonjour. Premièrement, merci pour votre œuvre.
D'accord, vous avez des lèvres qui brillent.
Un petit peu inspiré par la femme vierge.
D'accord, on voit ça.
Elle est toute en bleu, oui.
Charline,
bravo. Vous faites quoi vous alors? Vous dessinez? Vous faites.
Je refais les horaires radio. À Radio-Canada. Mais j'ai fait mon cours en Beaux-Arts aussi, par exemple.
C'est Charline,
à temps perdu, mais...
Très touché par le clin d'œil des lèvres bleues.
Merci beaucoup, puis bonne journée,
merci,
bonne soirée.
Merci, au revoir.
On va vous laisser sur cette marque bleue. Merci beaucoup, Enki Bilal.
Merci beaucoup d'être passé.
Bonne signature.
Un plaisir, merci.
À bientôt.
Merci, au revoir.
Toute l'œuvre d'Enki Bilal est à retrouver chez Casterman. Merci à lui. Alain Mabankou, on part oui. en Afrique avec vous pour ces fêtes de Noël.
Oui.
Avec le dictionnaire enjoué des cultures africaines, publié avec la contribution d'Abdourahmane Ouaberi. Oui. Vous connaissez depuis longtemps tous les deux?
Oui, on se connaît depuis les années 90. On était des jeunes étudiants en France. Lui, il venait de Djibouti. Moi, je venais du Congo-Brazzaville. Il étudiait la littérature, l'anglais. Moi, j'étudiais le droit. Et puis nous avons commencé à écrire dans ces années 90, ça a créé une complicité, on s'échangeait beaucoup sur l'Afrique, il méprenait beaucoup l'espace du monde arabe, moi je lui apprenais beaucoup du côté de l'Afrique centrale, tout ce qui est politique, tout ce qui est cuisine, tout ce qui est musique.
Et ça a généré ce dictionnaire
et
en
ça
fait,
a généré
au fur et à mesure.
On s'est dit, mais écoute, on en a marre parfois d'avoir un discours très universitaire sur l'Afrique, et ben on s'est mis à faire ce dictionnaire enjoué des cultures
oui,
africaines.
Parce que vous dites, nous refusons de percevoir l'Afrique comme un réservoir de malheur.
Ben oui, parce que chaque fois qu'on parle de l'Afrique, on a tendance à se dire que bon, faut vite donner de l'argent, sinon ils vont mourir de faim. On pense jamais que c'est une grande civilisation, c'est une grande histoire, et qu'il y a des gens qui sont dans la pensée aussi longtemps que tous ces philosophes qu'on nous a servis comme étant des unités de mesure.
Vous proposez ainsi une promenade à travers les cultures africaines, en parlant des personnalités, lieux et histoires que vous aimez, ou qui ont marqué l'Afrique d'ailleurs selon vous. On y retrouve Mohamed Ali, on y trouve Kofi Annan bien sûr, ou encore, un petit peu plus surprenant, et vous allez nous expliquer, Césaria Evora.
Non danza Na vino pra dançar, não faz a gente chorar No piquenique na sala mansa Nós já refrescamos lá na areia Não brinca, não canta, não dança Na vino pra dançar, não faz a gente chorar
Je ne crois pas aux rêves. Si j'avais rêvé d'une telle carrière, rien ne serait arrivé.
Avec la voix de Cesaria Evora. Pourquoi Evora du Cap-Vert, Alain Mabankou, dans ce dictionnaire enjoué de l'Afrique ?
Parce qu'elle incarnait ce modèle aussi de réussite culturelle où on se disait que En tant que femme qui a vécu dans des conditions parfois difficiles, elle venait donner de la voix et de l'espoir à beaucoup d'Africains.
La diva aux pieds nus, comme on l'a surnommée, qui a participé à la diffusion et au métissage de la musique africaine dans le monde. Oui. Vous évoquez aussi, puisque ce titre est très dansant, la danse du ventilateur. Qu'est-ce que c'est, Alain Mabankou, la danse du ventilateur ?
La danse du ventilateur, au Sénégal, on va parler du balak. C'est une sorte de danse dans laquelle les mouvements frénétiques rappellent un peu les pales aussi du ventilateur. Si vous allez... moi, je préfère plutôt le balax que la danse du ventilateur.
Ouais, c'est très érotique, la danse du ventilateur. Et vous dites que Rihanna s'en est inspirée pour ses chorégraphies aujourd'hui.
Elle s'en est inspirée. Et,
il y a des Barbades. Hein,
voilà, tout à fait. Il y a l'Amérique.
De la Barbade.
L'Amérique, en quelque sorte, aussi s'inspire de cette danse africaine. La danse du ventilateur a été longtemps taxée comme étant trop pornographique parce
oui,
que tout se joue à partir de la face B. Derrière.
Vous dansez la danse du ventilateur, Didier Van Kovelaert?
Je vais me précipiter. Oui, ça donne très envie.
À Noël, là, pour le réveillon, ça peut être pas
ça
mal.
Ça va secouer le sapin. Oui.
Vous nous enverrez une petite photo, Didier.
Voilà.
Je ne sais pas comment enchaîner, je voulais entendre la voix d'Aimé Césaire. Ça va être compliqué. Mais c'est ça, la librairie francophone, c'est le mélange des genres. Écoutez, Aimé Césaire.
Aimé Césaire, vous considérez-vous comme un poète africain ou comme un poète français?
Et si j'étais tout bêtement un poète antillais? Après tout, c'est cela, les Antilles. Les Antilles, c'est l'Afrique plus la France. Par exemple, quand j'ai été à Saint-Louis, du Sénégal, j'ai vraiment eu l'impression que j'étais aux Antilles parce que je retrouvais là précisément la double composante, la composante France et puis la composante Afrique.
Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, que vous citez aussi, initiateurs tous les deux de la négritude qui visait à exalter et à valoriser les racines africaines face aux canons esthétiques occidentaux.
Oui, ben je pense que quand on fait un dictionnaire comme celui-là, ce sont des personnages incontournables. Aimé Césaire a marqué la politique française, a marqué l'Assemblée nationale. C'est l'acte de naissance de la pensée noire en français. Parce qu'aux États-Unis, ça serait les Chester Himes, les Claude Maquet qui ont fait ce qu'on appelait là-bas le Harlem Renaissance. Donc la version noire américaine qui a recherché l'image du noir américain, eh bien c'est comme si la négritude était la traduction pratiquement de cela.
Bon, vous connaissez bien l'émission Alain Mabankou, vous êtes ici chez vous. Vous l'avez dit, on vous l'a dit aussi, donc tout va bien, c'est clair entre nous. Il y a trois libraires, vous le savez, qui ont lu, enfin des libraires qui ont lu votre livre, trois aujourd'hui, avec le Canada, la France et la Suisse. Qui choisissez-vous en premier ?
Canada, France, Suisse.
Vous aurez les trois. Hein.
Pour ne pas embêter, on va faire par ordre alphabétique.
Alors c'est quoi ?
Canada.
Oui, c'est ça, c'est Canada. Allons-y, Josiane Letourneau.
Eh bien, Alain Mabankou, si votre livre m'a fait réaliser sans détour à quel point ma connaissance de l'Afrique est, en fait, pathétiquement pauvre, il s'est, à l'inverse, révélé fabuleusement riche. Beaucoup plus, en fait, qu'un banal dictionnaire dont vous avez judicieusement tiré le meilleur de la forme, ce qui en fait un excellent, voire incontournable ouvrage de vulgarisation. C'est franchement une réussite.
Ah, ben merci. Hein.
Dans l'ordre alphabétique, la France.
La France. On l'appelle la France.
Sophie Todescato. Elle est là, on l'appelle pas.
Oui, je suis là. Oui.
Elle est
oui,
là,
à Orléans. C'est un livre tout à fait formidable qui a à la fois de la simplicité, de la fantaisie et du sérieux. Alors, on peut tout à fait le consulter, y picorer comme dans un dictionnaire classique. Mais en fait, quand on le commence, sa liberté de ton, son éclectisme encourage vraiment à lire dans la continuité et ça nous embarque en nous faisant voyager et réfléchir. C'est vraiment un livre dont on sort moins ignorant, qui ne prend jamais le lecteur de haut et qui est donc vraiment à tout point de vue recommandable.
Eh ben dis donc.
Ah ben, ça fait déjà 2 étoiles. Hein,
j'espère. Ça fait 2 étoiles, peut-être une 3e.
On ne sait jamais.
La Suisse, c'est pas toujours facile chez nous. Hein,
non.
Ils sont exigeants. Non, Dominique Bressou est très exigeant.
Ils sont toujours à l'heure. Donc tu sais bien.
Dominique.
C'est pas vrai. Il est poncif.
Ah, oui. Allons-y, hein, c'est Noël. Hein.
Oui.
La bienveillance.
Comme Sophie, je m'attendais à picorer dans ce recueil, en fait, comme on peut le faire avec un dictionnaire normal. Et puis non, il se lit vraiment article après article, en raison justement de son caractère enjoué. On saute ainsi allègrement du cube magie à la rumba congolaise. Et c'est passionnant. Et ces instantanés sur les cultures africaines sont superbement complétés par les nombreuses références d'écrivains africains. On doit lire ce dictionnaire, un stylo et un papier sous la main, pour noter tous ces livres à découvrir de toute urgence.
Wow. Bon, Alain Mabankou, il est question du Kwanza.
Oui.
Alors, le Kwanza, c'est, ou la Kwanza, je ne sais pas comment on prononce.
La Kwanza, c'est
la Kwanza, plutôt, ouais. Oui, parce que c'est une fête rituelle et spirituelle inventée aux États-Unis en 1966 en réaction au Noël chrétien.
Je suis content parce que je vois que vous vous êtes bien documenté.
J'ai lu le livre, quoi.
Au moins, mais c'est bien, au moins, parce que vous le dites avec un côté naturel qui fait que je dis le message est passé. Si Emmanuel Kerad est dedans, commence à parler du Kwanza. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous me parlez de Noël, parfois ça me désespère. Ouais. Il y a des clichés qui ne sont pas parfois de ma propre civilisation. Et le Kwanza permettait un peu aussi aux Noirs américains de relier, de revenir vers leurs racines africaines et peut-être aussi de retrouver cet élan de la quête de leur identité, puisque vous savez, les Noirs américains sont venus dans ce continent là-bas par l'esclavage, la traite négrière.
Les racines africaines, c'est aussi le baobab à la Mabankou.
Oui.
Cet arbre majestueux, emblématique, imaginez Noël non pas au coin du feu, mais auprès d'un baobab, auditeurs canadiens et européens. Imaginez cela, le baobab qui transmet une énergie aussi. Alain.
Ça transmet une énergie, la force même. Hein. Le principe du baobab, c'est qu'il se lance dans le ciel et s'enracine bien dans la terre. Et toute même la littérature africaine tourne autour Voilà, donc c'est là qu'on peut parler des choses sérieuses. Il y a même des écrivains qui ont des titres comme Le Baobab fou de Ken Bougoul. Personnellement, dans mon livre, par exemple, Mémoire de Porc-Épic, c'est un Porc-Épic qui s'adresse à un baobab. Le baobab symbolise un peu l'écoute, la sagesse, la durée et le temps. Voilà.
Vous parlez de la société des ambianceurs et des personnes élégantes.
La SAP,
un mouvement de jeunes Congolais qui s'habillent avec un luxe ostentatoire et de façon extravagante. Vous êtes un petit peu comme ça, dans cet esprit-là. pas trop aujourd'hui, vous êtes magnifique aujourd'hui, Alain. Franchement, l'accord des couleurs est génial.
D'abord, avant, je ne fais pas des accords. Hein.
Mais on va prendre une photo, on va mettre ça sur le site internet, parce que je ne vous ai jamais vu aussi bien habillé. D'habitude, vous êtes beaucoup plus extravagant. La SAP, c'est ça, c'est l'idée, c'est de provoquer un petit peu.
C'est de provoquer un petit peu, mais bon, là, j'aurais pas de... Les gens vont ne pas me dire que je vous ai vu à la radio. Donc, je suis là. La SAP, c'est vrai, c'est bien s'habiller, c'est un mouvement, la société des ambianceurs et des personnes élégantes qui est née du côté du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa, mais c'est aussi l'expression pratiquement corporelle, le refus dans ces pays où il y a la dictature, le refus de se dire que on contrôle tout, mais au moins mon corps, je le contrôle et je mets les couleurs que je voudrais. Et certains corps ne sont pas en évidence parce que tout simplement c'est incompatible avec les habits qui sont mis au-dessus. On n'achète pas l'habit par tiens, ça va me servir de chemise. Il faut une réflexion intense quand vous commencez.
Je suis d'accord.
Mais bien sûr. Vous rentrez dans une bibliothèque, vous choisissez, vous lisez.
Oui, faut arrêter avec le côté pratique.
Vous lisez la 4e de couverture. Les habits, c'est la même chose.
C'est ça. On ne s'habille pas pour des raisons pratiques.
Non.
On s'habille pour quelque chose, pour incarner quelque chose.
Mais bien sûr.
Mais je suis tout à fait d'accord, Alain. Bon, merci beaucoup, Alain Mabankou. Vous allez bien sûr rester avec nous. La suite de cet entretien, ce sera dans la version télé de la librairie francophone. Vous serez notre invité en janvier. Diffusion sur RTS2, RTBFLA 3, ici RTV de Radio-Canada et sur les 9 réseau de TV5 Monde. À très vite donc dans la librairie francophone avec des images, hein. Va falloir bien s'habiller là.
Ah non.
À suivre la bienveillance comme une arme de résistance, c'est Didier Van Kovelaert qui le dit, et puis une balade aussi en forêt sous la neige au Canada. Avant cela, voici le nouveau titre de Louis Chédid dans la librairie francophone.
Un baiser, rien qu'un seul,
aussi léger soit-il. À peine le poids d'une feuille, la caresse d'un cygne. Écouter battre son cœur et mourir de bonheur. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie, corps à corps, bouche à bouche. Que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Revers de la médaille, même si ça fait mal, parfois, parfois, pour un simple je t'aime, être prêt à faire n'importe quoi. Trop aimer, trop s'étreindre, qui oserait s'en plaindre. Dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie, corps à corps, bouche à bouche. Que l'on s'adore, que l'on se touche. Qu'on veut dans la vie. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie.
C'était Louis Chédid avec Tout ce qu'on veut dans la vie, son tout nouveau titre dans la librairie francophone.
Les médias francophones publics.
Radio France, RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Didier Van Kovelaert, La bienveillance est une arme absolue, c'est votre nouveau livre paru aux éditions de l'Observatoire. À une époque où tout se radicalise avec, je cite, la bêtise, la ruse, la haine, la bienveillance peut être une réponse. Comment peut-on résister? Comment peut-on rester bienveillant quand on se fait attaquer injustement, par exemple, quand on se fait mépriser, ou pire, humilier? Comment on fait?
Ah ben, le but, c'est de désarmer l'adversaire. Déjà extérieurement, répondre à l'agression par l'agression, ça condamne à l'escalade. Donc ça ne mène nulle part, on atteint le plafond et on retombe. Ça n'ouvre pas de nouvelles voies. Si vous désarçonnez l'adversaire, l'assaillant, par quelque chose qui n'est pas sur le même registre, là, vous marquez un point. Si vous essayez de comprendre par empathie pourquoi il réagit comme ça, et là, vous saurez où attaquer, où est le vrai point faible. La raison, des gens parfois ont des raisons parfaitement légitimes de faire mal. Mais si vous allez mettre le doigt dessus, là, vous allez retourner la personne.
Ça permet de désamorcer. Et surtout, il ne faut pas avoir peur, c'est ce que vous racontez.
Voilà, et
ça.
Puis il faut aussi se protéger de l'intérieur, parce que la rancune, la haine, recuit de l'envie de vengeance, c'est des toxines que vous infligez à vous-même, on le voit très bien au niveau hormonal. Dès le moment où vous acceptez ça, vous acceptez que l'ennemi gagne à l'intérieur de vous. Et puis l'humour de la situation qui désamorce.
C'est ce que vous avez fait toute votre vie, Didier Van Kovelaert. Vous racontez plein d'histoires personnelles, et notamment une qui, comme pour votre prof de gym dont il est question, m'a fait couler une larme. Ce prof qui vous a pris en grippe un jour, et vous vous retrouvez souvent à l'écart, comme ça, sur le banc de touche, pour vous occuper et pour vous consoler, vous écrivez des histoires sur lui.
Oui, mais pas n'importe quelle histoire. Je me venge avec mes armes. Quand j'ai appris à écrire à l'école, j'ai tout de suite compris que les mots seraient mes meilleurs amis dans la vie et seraient les armes les plus efficaces. Et là, ce type, ce prof qui me pourrit la vie, je veux dire le harcèlement moral, la maltraitance psychologique, beaucoup d'enfants ont connu ça. Celui qui fait rire à vos dépens, qui fait exprès de me priver de là où je suis le meilleur en sport pour me mettre là où je suis nul, dans les sports collectifs. Oui. Football, je vois passer un ballon, je pense à autre chose, je dis tiens, il y a un ballon, quoi. Je vois pas l'urgence de courir après, de le chipper à un autre. Donc, évidemment, allez, sur le banc de touche, l'autre naze, là. Donc,
et c'était à Nice, c'est pour ça que vous faites un peu l'accent.
C'était à Nice.
C'est pas ça l'accent du soir, mais c'est pas grave.
Non, faut quand même. Alors, le mollusque va te mettre sur le banc de touche.
C'est mieux.
Et donc, il faisait marrer tout le monde. Et moi, je faisais quoi à ce moment-là? Je prenais mes carnets et je notais ce qui lui arriverait dans le chapitre que j'écrirais le soir. C'est-à-dire que j'avais transformé ce prof en tueur à gages, victime de la guerre des gangs, et je le torturais avec un sadisme délicieux. Je lui glissais un oursin dans le slip, dans les nucléants, je le mettais dans une bassine d'acide chlorhydrique, où il fondait comme un cachet d'aspirine. Et pour pouvoir continuer...
Ça va donner des idées à Alain Mabanco pour un roman, ça.
Et pour pouvoir continuer à le torturer, je l'avais rendu immortel, façon Highlander.
Bon, et alors, un jour, parce que je sens que c'est encore très chaud chez vous, un jour, il vous demande, mais pourquoi tu souris sur le banc de touche?
Je suis sur le banc de touche, non, et surtout il me dit, Victor Hugo, là, tu te marres rien tout seul, fais-nous profiter. Et là, j'ai dit, ok, il ne se doute pas que, c'est assister à une exécution capitale, mais la sienne. Et je me mets à lire le passage. Évidemment, il y avait son nom, Tony Pirelli, dans l'extrait. Et je me dis, pour une fois, bon, je vais me faire renvoyer, mais tant pis, autant mettre le ton et j'aurai les rieurs de mon côté. Sauf que personne ne rit et je lève les yeux à un moment donné et je vois une larme qui coule sur la joue du prof. Et à la fin, il me retient dans les vestiaires et il me pose cette question que j'attendais pas du tout. Il me dit, t'as déjà écrit un truc comme ça sur un autre prof? Et là, je ne saisis pas la perche de la circonstance atténuante qu'il me tend peut-être. Je dis non, vous êtes le premier. Il dit bon, ça va.
Et alors, il va vous demander de lui raconter ces histoires-là, de continuer à écrire sur lui. Et vous allez découvrir beaucoup plus tard qu'en fait, il avait perdu son fils.
Oui.
Cette année-là, qui vous ressemblait. Il avait envie de se suicider. Et en le tuant dans vos histoires, c'était une façon pour lui, finalement... de se sortir de cette situation-là. Et il vous dit, vous m'avez sauvé la vie.
Et il me dit ça, 7 ans plus tard, au moment où paraît mon premier roman, il vient dans la librairie avec le roman.
À Nice.
À Nice, qu'il avait lu. Et d'abord, premier truc, il me dit sur un ton réprobateur, pourquoi je suis pas dedans? Et après, il me dit, je voulais te dire que, sans le savoir, tu m'as sauvé la vie, parce que je voulais vraiment en finir et je me suis pas tué parce que quelqu'un le faisait pour moi.
Voilà.
On peut faire de la bienveillance sans s'en rendre compte, croyant qu'on se venge. Et après, ce que la personne vous offre en vous disant ça, c'est merveilleux.
Alors, cette bienveillance-là est magnifique. Il y a aussi la bienveillance désirée, Didier Van de Kovelaert. Un jour, vous entendez votre père, qui souffre d'un handicap à sa jambe, dire à votre mère, le jour où je suis en fauteuil roulant, je me tire une balle dans la tête. Alors, vous décidez de mettre les bouchées doubles pour devenir le plus jeune écrivain du monde. Car votre père aurait aimé écrire, lui, des histoires. Il aurait aimé écrire des textes pour le théâtre ou pour le cinéma.
Mais surtout, je me dis, je vais faire quelque chose de tellement super que ça lui donnera envie de vivre, même en fauteuil roulant. Et c'est là que je fais plus aucun devoir d'école, je passe mon temps à écrire, à envoyer les manuscrits chez les éditeurs, à me fabriquer des lettres de recommandation aussi, parce que j'avais entendu à la radio qu'il fallait avoir des lettres de recommandation. Donc,
allez chez un libraire qui vend des autographes et vous
avec
copiez...
un papier calque.
Oui, et vous copiez l'écriture de Jean-Paul Sartre.
Jean-Paul Sartre, Henri Troyat, Françoise Sagan, et je m'envoie des lettres de recommandation. Alors, ça n'a jamais marché, ce qui...
C'est ça qui est dingue.
Je me suis dit à 9 ans et demi, finalement, c'est très exagéré, le pouvoir des lettres de recommandation, tout le monde s'en fout. Et donc, c'est pas moi qui ai sauvé mon père, les éditeurs n'ont pas voulu de mes livres et c'est la chirurgie qui l'a sauvé.
Bon, c'est très émouvant, Didier, il y a des choses très drôles aussi parce que vous inventez une histoire à l'école, vous dites que vous êtes le fils caché du roi Baudouin. Je vais pas raconter l'histoire parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a plein de choses comme ça, il faudra lire le livre. On va laisser la place à nos libraires. Didier, la Belgique, ça vous va? On commence par la Belgique.
Parfait.
Allez, Déborah Damblon, qu'avez-vous pensé? pensé de cette bienveillance ?
J'ai pensé, Emmanuel, que présenter la bienveillance comme une arme, fallait le faire quand même. Et vous l'avez fait, Monsieur Van Coolhart, et vous l'avez bien fait. Parce que moi, je trouve ça essentiel et réparateur de voir cette qualité immense et trop souvent minimisée, qui est même moquée, qui est remise à sa juste place. Et j'ai aimé tellement que votre livre se prête à être grappillé plutôt qu'à être dévoré, parce que comme ça, on peut y puiser une histoire de temps en temps quand on en a envie, quand on en a besoin. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est en cette fin d'année, ben, s'il vous plaît, offrons de la bienveillance.
La Suisse, avec Dominique Bressoux.
Oui, alors moi je dois avouer que le mot bienveillance, c'est un peu comme l'expression belle personne, c'est tellement galvaudé que j'avais un a priori particulièrement négatif en commençant le livre. Mais en le terminant, finalement, je suis partagée. Autant j'ai adoré la première partie pleine d'humour qui raconte des anecdotes étonnantes ou croustillantes, autant je suis réticente pour la deuxième partie. À mon avis, le mélange de faits scientifiques avérés à des récits de pouvoir de la pensée magique, c'est très limite.
Alors, c'est vrai, dit Van
Coolhart. C'est très revendiqué.
Et il y a des passages moins rationnels dans votre livre. On pourrait, comme ça, selon vous, décupler sa force en concentrant la force de plusieurs personnes pour se sauver d'une situation critique. Ça s'appelle la résonance de Schumann. Vous croyez aussi en une bienveillance extraterrestre?
Non, je pose la question. Y a-t-il une bienveillance extraterrestre lorsqu'on prend tous les rapports de commandants de bases militaires, anglais, belges, qui ont eu des survols d'OVNI, et en même temps un désactivage de missiles nucléaires. Des témoignages de pilotes français, de Mirage porteurs de la bombe atomique, coursés par une lumière qui a une vitesse hallucinante et qui désactive leurs appareils. Je n'invente rien, je ne crois en rien. Je rapporte, je fais circuler l'information.
Vous dites quand même qu'à Fukushima, Didier, vous dites quand même qu'à Fukushima, on a évité le pire grâce à une chape d'un vaisseau extraterrestre qui a pu contenir la diffusion.
Je commente une image prise par la télé chinoise, diffusée, qui est passée en direct au journal en Allemagne, pas en France. Moi, je me pose les vrais problèmes. Il est impossible, rationnellement, que Tchernobyl ou Fukushima n'aient été que des catastrophes thermiques, alors qu'il y avait tellement d'uranium enrichi que les deux tiers de l'Europe auraient dû être rasés par Tchernobyl. Aucun scientifique ne s'explique pourquoi ça s'est arrêté là, si ce n'est que l'uranium a disparu pour être remplacé par de l'aluminium, ce qui est totalement impossible.
Bon, alors il faudra lire votre passage et puis se faire une idée effectivement sur ce sujet-là qui prête évidemment à débat. On va revenir sur quelque chose de plus rationnel, on va dire la bienveillance des plantes, une orchidée en particulier, la drachéa, qui simule la femelle d'une guêpe.
Ça, c'est parce qu'aucun pollinisateur ne s'intéresse
c'est
à elle.
Ça, ouais. Donc, et Jean-Marie Pelt a fait une étude d'ailleurs sur cette orchidée.
Elle fait venir le mâle de cette guêpe en imitant sa femelle par les proportions, donc visuellement, et par l'odeur, les phéromones sexuelles. Et quand le mâle arrive, évidemment, il essaie de copuler, il n'y arrive pas, au bout d'un moment, il repart, mais il est chargé de pollen et il va chercher une autre guêpe femelle simulée et il va ainsi faire circuler le pollen d'une fleur à l'autre.
C'est incroyable.
Donc c'est une ruse terrible. Pourquoi j'en parle dans le cadre de la bienveillance? C'est qu'elle est allée plus loin, cette orchidée.
Oui.
C'est qu'elle a pourvu cette image de femelle d'un orifice copulateur.
Pour satisfaire le mâle guêpe.
Peut-être pour se l'attacher encore plus durablement.
Comme ça, il a un peu de compensation.
Quoique, le but, c'est qu'il parte vite. Donc, pourquoi lui offrir en plus le moyen de s'arrêter? C'est tout ce questionnement d'intelligence dans la nature et chez les animaux. Et hélas, l'homme a beaucoup perdu, mais il reste des cas de bienveillance formidables que je raconte dans le livre.
Allez, Josiane Letourneau, pour conclure au Canada, que voulez-vous dire à Didier Van Coolhart?
Ben, que je suis un peu prise au dépourvu par ce livre, parce que vous me donnez envie de croire que c'est possible, que la bienveillance telle que vous la racontez avec tant de conviction peut réellement être une arme paradoxalement désarmante. J'y crois en fait jusqu'à un certain point. Mais ce qui est indiscutable, c'est que vous avez fait naître des histoires, des personnages dans les nuances et parfois les excès d'humanité n'ont rien à envier à la fiction.
Oui, j'aime quand la réalité me raconte des histoires aussi belles, aussi fortes que celles qu'on peut imaginer en la fiction.
On va terminer avec une citation de Frédéric Dard qui vous dira « Tu sais ce que c'est au fond la bienveillance ? C'est reprendre le pouvoir. C'est se dire « Je mérite mieux que de rester la victime d'un salaud. » Tu lui trouves des raisons, une détresse, des circonstances atténuantes et tu arrêtes de lui vouloir du mal. Il t'en a assez fait. » Merci beaucoup Didier Van Kovelaar.
Et merci à Frédéric Dard.
Merci. La bienveillance est une arme absolue est parue aux éditions de l'Observatoire. Et vous revenez tous les deux avec Lama Bankou pour parler du cadeau que vous avez choisi pour Noël. De la bienveillance, on passe à une ambiance Touareg avec le nouveau titre du groupe Tina Riwen. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde. Et surtout, évidemment, bonne fête à tous. C'était le nouveau titre du groupe Tina Riwen avec Quelle Tina Wen dans la librairie francophone. Voici à présent un grand reportage au Canada, sous la neige, pour entamer cette période de Noël. Une librairie verte grand format, notre séquence récurrente qui interroge le monde de l'édition sur l'environnement. Gabriel Filtoshiba a publié Sauvagine chez XYZ, une ode à la nature, à la région du Kamouraska et plus largement aux grands espaces canadiens.
La librairie francophone. Emmanuel Kérade.
De la neige tout autour de nous avec des cours d'eau aussi qui sillonnent comme cela cet endroit naturel, cette réserve naturelle, quelques cabanes et puis des arbres, des aires de pique-nique pour les promeneurs et beaucoup, beaucoup de neige.
Alors ici... On a 25 km de sentiers de randonnée, on a plus de 350 000 visiteurs. Un des défis qu'on a, c'est de gérer la croissance constante. Les gens ont un besoin grandissant de nature et de se retrouver avec soi-même en nature. Donc, c'est un des défis qu'on a, c'est de gérer cette croissance-là.
Et bonjour, Gabriel Filtoshiba.
Bonjour.
Vous êtes une auteure québécoise qui défend la nature, donc, et cette région du Kamouraska, dans le nord-est, bien après Québec, à 180 km environ, et vous vivez dans une maison à énergie solaire au bord de la rivière. On a une rivière, justement, à côté de nous. Ça ressemble un petit peu à votre endroit.
Oui, il y a un peu plus de feuillus ici. Chez moi, c'est vraiment la forêt boréale avec prédominance d'épinettes. Je suis très contente de voir d'autres paysages forestiers. Ça me nourrit beaucoup.
Vous avez publié donc Sauvagine chez XYZ. Votre personnage vit dans une roulotte au milieu de la forêt pour être le plus près possible des animaux qu'elle s'efforce de protéger. Pourquoi cet exil en marge de la société, Gabriel?
Je pense que c'est nécessaire de s'éloigner des bruits pour se rapprocher des animaux et aussi de vivre dans un mode de vie plus simple. Et c'est une belle leçon d'humilité au Québec. Ouais. Parce que l'hiver peut être très violent.
Alors, attendez, je m'enfonce dans la neige, moi, parce que il y a bien 20 cm. Et voilà, on approche du lac, on a une sorte de petite plage. C'est très étonnant parce que on est au bord de l'eau, mais on ne sait pas quand est-ce que l'eau commence, puisque c'est gelé tout autour. La narratrice est en lutte contre les trappeurs, les braconniers notamment, qui font commerce des fourrures de coyotes. Il y en a beaucoup ici au Canada, des trappeurs. C'est un sujet très sensible, notamment concernant les fourrures des vêtements, des parkas, où il y a de grands militants contre justement cette exploitation.
Oui, ben en fait, moi, je connais pas beaucoup l'industrie de la fourrure en soi, mais j'avais l'impression d'être un témoin privilégié d'un carnage, en fait. Quand je suis arrivée, il y a à peu près 8 ans, dans le Kamouraska, j'entendais les coyotes à tous les soirs. C'était une chorale épeurante au début, puis ça a laissé place finalement à de l'émerveillement. Maintenant, c'est le silence. On ne les entend plus. Alors, j'ai voulu, dans mon roman, raconter un peu l'enquête que j'avais menée pour découvrir qu'est-ce qui se passe avec les coyotes, où sont-ils, qui les trappe, est-ce que c'est trappé légalement ou est-ce que c'est du braconnage? Je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance de la nature pour penser qu'on peut, en tant qu'humain, jouer à Dieu, réguler des écosystèmes. Il y a des gens qui se justifient de trapper ou de braconner les coyotes parce qu'ils font de la déprédation.
Mais c'est le cas aussi en Europe avec les loups, où on dit, certains disent en tout cas, qu'ils sont en trop grand nombre et qu'il faut en éliminer pour protéger les troupeaux, par exemple.
Ceci dit, je pense que ça peut être pratiqué avec un grand respect et un grand amour de la nature, mais on a clairement un problème avec l'idée de déprédation des coyotes.
Gabriel, on va se diriger vers une cabane là qui est au fond. On va se protéger un peu, une cabane de couleur gris-vert. Dans la neige avec...
Il y a des traces de lièvre ici.
Ah oui, des traces de lièvre.
Oui, c'est joli, hein? Les quatre pattes groupées, boing, boing, boing.
C'est vrai. Alors dans votre roman, il y a un couple de femmes qui vit une belle histoire d'amour, mais qui se radicalise face aux braconniers. Il y en a un d'ailleurs qu'elles ont dans le collimateur et qu'elles vont décider d'éliminer. C'est un peu radical, hein, Gabriel?
C'est un peu radical, mais je me suis inspirée de quelque chose que j'ai vécu. En fait, moi, j'ai une chienne qui est à moitié husky, à moitié coyote, puis elle s'est prise dans des pièges de braconnage plusieurs fois. Une fois... Je l'ai retrouvée, puis elle était vraiment en piteux état, et je pensais qu'elle allait mourir. Et j'étais tellement inquiète pour elle, et j'étais tellement en colère, que, bon, je me suis imaginé un scénario dans lequel je pouvais me faire justice et régler tout le problème du braconnage au pays. Mais bon, alors c'est pour ça que j'ai écrit Sauvagine. C'était vraiment une façon de canaliser ma violence à
ce moment-là. C'est une vendetta littéraire?
Oui, ça a fait un bien immense, vraiment. Mais c'est bien pour ma santé mentale, en fait.
Vous pourriez tuer pour protéger la nature et les animaux, plus sérieusement?
Tuer? Je pense qu'on est dans une époque où on n'aura peut-être pas le choix de se radicaliser parce que nos gouvernements sont passifs et les leviers ne sont pas à la portée des citoyens, les grands leviers pour empêcher le pire. Mais il y a vraiment une dévastation.
Alors, il y a un petit Porsche, on va s'abriter.
On voit qu'on n'est pas les seuls à s'être abrités.
Oui, c'est vrai, il y a d'autres pas.
Je lance des écureuils.
Dans cette forêt enneigée. Gabriel, vous écrivez aussi, parfois l'histoire le démontre, la désobéissance et la rébellion ont permis le progrès. Ça illustre ce que vous venez de dire. Vous y croyez en cela?
Oui, j'ai lu Thoreau, Henri David Thoreau, et ça a été une grande influence dans ma vie. Alors, à travers son expérience humaine, j'ai compris que on pouvait désobéir. En fait, dans certains cas, il faut désobéir. Quand les lois sont injustes, il faut se tenir debout, tenir tête. Et encore mieux si on est nombreux.
À un moment dans votre roman, vos personnages, ces deux femmes vont rendre visite à un gros pin centenaire. Elles vont l'enlacer avec leurs bras. Vous le faites, ça?
Oui, je suis allée récemment. Là. C'est drôle que vous m'en parliez parce que c'était vraiment un fantasme. Moi, quand je voyage, je planifie mes voyages en fonction des arbres anciens que je veux visiter. Ceci dit, je voyage plus beaucoup parce que j'ai peur d'avoir une trop grande empreinte écologique, mais...
C'est le dilemme, ça.
Gros pin, c'est un de nos plus vieux arbres au Québec. Un pin blanc d'environ 450 ans, peut-être même 650. Alors, ça date d'avant la colonisation. Et pour moi, il y a quelque chose de très symbolique là-dedans. Un arbre qui nous précède, nous, les Blancs, sur cette terre.
Ça vous donne envie, quand il y a les arbres, là, de les toucher?
Oui, ben je me retiens parce
Allons-y.
En face ici, c'est un érable. Moi, je reconnais par les taches noires sur l'écorce.
Ah oui, exact.
Oui.
Alors allons enlacer un érable.
C'est quand même symbolique. On est au Québec, hein,
oui,
on
reste dans le thème. Alors je laisse commencer.
Ah. Alors ça, c'est comme si j'étais branchée sur le gros courant.
Attendez, je vais vous rejoindre. Il y a un petit banc juste à côté. Il y a plein de neige. Je vais poser mon matériel sur la neige. Attendez, hop. Je vais en enlever un petit peu.
Vous allez voir, ça
voilà, même. Hop. Allons-y, enlaçons l'arbre.
C'est un peu comme avoir un nouveau-né dans les bras, mais là, on a un être ancien.
Ça a un autre son en plus.
Oui.
Comme s'il captait notre voix et qu'il la répercutait dans le micro.
Moi, je me demande toujours comment ils se sentent, les arbres, parce qu'ils vivent des grands changements. Le climat change. Tout à l'heure, on entendait des oies sauvages. Puis c'était étrange parce que c'est vraiment pas le moment. Ils devraient être déjà réfugiés loin.
Il y a un côté très sensuel, très charnel dans la nature. Et dans votre livre aussi, vous le décrivez, ça. Ce rapport à la nature, comme on est en train de le faire. On est collé à un arbre, hein, je précise à ceux qui nous écoutent complètement.
Vraiment le visage collé sur l'écorce. Mais oui, parce que de vivre dans la nature, ça aiguise les sens. C'est fascinant.
Bon, on va laisser l'arbre parce qu'il est un peu froid.
Oui, un peu humide.
Si vous pouvez mettre un manteau la prochaine fois. Bon, il est magnifique cet arbre, cet érable, avec cette écorce caractéristique. Vous le dites, effectivement, on reconnaît les érables avec leurs taches brunes sur l'écorce.
Et... juste à côté, on a un être. Les êtres, ils ont une écorce lisse, un peu comme une patte d'éléphant. Puis ils cohabitent avec les érables dans les érablières.
On va essayer de ne pas glisser parce que en marge des sentiers, il y a de petites routes glacées et ça glisse beaucoup. Des jolies chaussures rouges, Gabrielle, mais... Alors, on retrouve la neige, ça va être plus accrocheur. Alors Gabrielle Filtoshiba, vous racontez dans votre roman que les hommes se mettent en danger, en mettant eux-mêmes en danger la nature, mais en fait personne ne réalise vraiment cela, personne ne réagit vraiment. Ça vous énerve ça ?
Énervée, c'est le mot est peu fort. Non, ça m'inquiète, ça me préoccupe. C'est une peur vraiment viscérale qui m'habite au quotidien. Parce que je me réveille le matin et j'entends le bruit des scies à chaîne. Même si j'habite dans la forêt, j'entends le train qui passe au village voisin et qui transporte du pétrole à toute vitesse sur des rails en mauvais état. Et c'est ça, j'entends de moins en moins les animaux. Alors j'aimerais qu'on protège nos forêts, j'aimerais qu'on revoie notre façon d'exploiter nos ressources de manière plus durable, plus consciente.
On arrive au pied d'une petite colline. On va terminer ici, à Gabrielle, à la croisée des chemins, au milieu de la forêt, pas très loin du lac, à côté de cette colline et de tous ces arbres qui nous entourent. Et des traces d'animaux que vous reconnaissez à chaque fois.
Des traces de chevreuils.
Merci pour cet entretien ici dans la forêt du Mont-Saint-Hilaire. Votre roman Sauvagine est paru chez XYZ. À bientôt, Gabrielle.
Merci, bonne lecture.
La librairie francophone, une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
On quitte la neige et la forêt pour la suite de la chronique des libraires avec leurs idées cadeaux pour Noël. Deuxième partie, pas de coup de gueule aujourd'hui, mais de la bienveillance, juste pour Didier Van Kovelaert. Josiane Letourneau au Canada, on reste dans la nature avec vous.
Oui, avec le livre Forêt, publié aux éditions Cardinal. Alors, c'est un magnifique guide d'identification qui réinvente le genre. Cette randonnée sur papier est le fruit d'une collaboration père-fille, Gérald Le Gall et Ariane Paré-Le Gall, qui tantôt nous informe sur les plantes comestibles du Québec, tantôt nous plonge dans des anecdotes qui rendent hommage à la beauté évocatrice et à la richesse gastronomique de la nature québécoise. En fait, je me lasse pas de le parcourir et je le veux.
Je le veux aussi. Forêt, identifier, cueillir, cuisiner, c'est aux éditions Cardinal. Merci Josiane. Déborah en Belgique, une série pour la jeunesse sous le sapin.
Voilà, et moi ça y est, je l'ai, Emmanuel. La tempête des échos est sortie. C'est le 4e tome de la série La Passe-Miroir.
Ah oui.
Vous savez, cette fabuleuse, j'en ai déjà parlé, c'est vrai, la
non, mais
fabuleuse
ça marche bien,
saga
ouais.
de Christelle Dabos, ça marche bien parce que c'est génial. Alors, de deux choses l'une, Emmanuel, où vous êtes passé à côté de cette série géniale, alors foncez parce qu'il y a plus de 2000 pages de bonheur qui s'ouvrent à vous et vous avez une chance de dingue, ou vous faites partie de ceux qui l'attendiez avec impatience et donc vous avez tout recommencé depuis le début pour être prêt à l'accueillir comme il faut. Bref, quoi qu'il en soit, on va tous passer les fêtes dans notre bulle et se mettre aux abonnés absents.
Vous êtes une vraie gamine, Déborah. Franchement,
oui,
c'est un livre jeunesse. Hein. On
mais
en avait parlé à la version télé de la librairie francophone avec
exactement.
Une jeune, justement, auditrice, téléspectatrice qui était venue nous parler de ce livre. La série Passe-Miroir aux éditions Gallimard, comme vous. Gallimard, jeunesse, donc je précise. Merci Déborah. Alain Mabankou et Didier Van Kovelaert, eux aussi, ont réfléchi à des idées cadeaux. Alors, on commence par qui, Alain, tiens.
Je pense à un livre là qui a été publié par trois personnes. C'est un livre collectif, Pascal Blanchard, Nicolas Blancel et Gilles Bush. Ils ont publié « Sexe, race et colonie », qui est une somme vraiment colossale sur le comportement dans les empires coloniaux, sur la question de la race, sur la question du sexe. Et c'est bourré de photographies, plus de 1000 photographies et illustrations. C'est la découverte, hein. C'est sorti, je crois, il y a une année déjà. Mais c'est incontournable.
Merci Alain. Didier Van Kovelaert, votre livre à offrir.
Alors, sans hésitation, le très très beau livre de photos de Mathieu Ricard qui s'appelle « Émerveillement ». C'est publié à La Martinière. Et le but de Mathieu Ricard, photographe, comme Mathieu Ricard, écrivain, c'est que le pouvoir...
Et Mathieu Ricard, bouddhiste aussi.
Oui, mais ça va ensemble. Hein. C'est le même qui,
avec tout ce qui va avec.
Sur divers niveaux d'activité, témoigne de la même chose. C'est-à-dire du pouvoir et de l'énergie, de la bienveillance à travers le comportement d'humain ou la beauté de paysage et la force tellurique. Il y a de telles forces qui nous dépassent qu'on en sort rafraîchi et reconverti.
Merci Didier Van Kovelaert, la bienveillance toujours avec vous. Merci beaucoup Alain Mabankou, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Avant de conclure, voici le groupe français Super Bravo et un extrait de « Il n'y a plus foule ».
Falling
C'était Super Bravo avec Il n'y a plus foule, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Anna Buis avec Loïc Frappsos. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère en France. Annick Chouin et Madeleine Teuchère en Suisse. René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. La semaine prochaine, retour sur l'année 2019 avec les choix de nos libraires, entre autres. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et surtout joyeux Noël à tous les enfants avec une pensée toute particulière pour ceux qui sont seuls ou dans la douleur. Merci pour votre fidélité tout au long de cette année. Bonne fin de 2019 et à très bientôt. Merci.